France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Nous sommes en 2025, mais sommes-nous au 21e siècle? Et si oui, quand y sommes-nous entrés? Et au-delà, que signifie entrer dans un siècle nouveau? Comment le sait-on? Comment le sent-on? Pourquoi faut-il dépasser la chronologie classique pour penser les véritables ruptures de l'histoire? Voilà le travail passionnant, là encore, que mène l'historien Florian Louis au sujet du siècle dernier. 1904, c'est pour lui la date où tout bascule, celle où tout se concentre, celle où se situe l'embryon du siècle qui vient, le 20e siècle et celui qui le contient entièrement en germe. Pour nous orienter donc dans ces siècles, le 21e comme le 20e, Florian Louis, bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes historien des relations internationales, membre de la rédaction du Grand Continent et vous faites paraître aux presses universitaires de France 1904, genèse du 20e siècle. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir.
Peur sur la ville. Un Boeing 767 vient de percuter l'un des buildings du World Trade Center.
Cette idée de la toute-puissance du marché était une idée folle. Alors la crise actuelle doit nous inciter à refonder le capitalisme.
Il a donc déjoué tous les pronostics. Donald Trump devient le 45e président des États-Unis. Hillary Clinton a reconnu sa défaite il y a quelques instants.
4h15 du matin, le 24 février 2022. Les premières frappes russes sur l'est de l'Ukraine déchirent l'obscurité.
J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale pour protéger les personnes qui ont été soumises à un génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. À cette fin, nous chercherons à démilitariser et à dénazifier l'Ukraine.
Quand sommes-nous entrés dans le 21e siècle, Florian Louis, en 2000, en 2001, 2008, 2016, 2022 même?
Il est sans doute trop tôt pour trancher cette question.
Ça fait déjà un quart de siècle pourtant qu'on y est.
D'un point de vue calendaire, effectivement, mais par définition, le siècle étant une construction historiographique, c'est-à-dire un instrument artificiel de découpage du temps créé par les historiens pour essayer de mettre de l'ordre et donner du temps dans le passé, on ne peut le borner, aussi bien son début que sa fin, qu'une fois qu'on a suffisamment de recul sur lui. Et quand on le borne trop tôt, souvent, on en vient, c'est un peu l'objet du livre dont on parle ce soir, après coup à se dire que peut-être on est allé un peu trop vite en besogne en l'arrêtant. René Raymond, l'un de nos grands historiens français du XXe siècle, hein, avait écrit un livre qui est toujours d'actualité et fort intéressant, qui est une introduction à l'histoire du XXe siècle, qui a connu de nombreuses rééditions. Et justement, pendant longtemps, ce livre s'achevait avec la chute du mur de Berlin. Et dans l'une des dernières éditions, quelques années avant sa mort, il est allé jusqu'en 2001 en expliquant comment, si j'ose dire, il s'était trompé, peut-être pas, mais comment les attentats du 11 septembre et tout ce qui s'en est suivi lui avait donné la sensation, voire la conviction, que le XXe siècle se terminait plus tard qu'il ne l'avait initialement pensé. Mais en fait, effectivement, il y a la question de comment nous, au quotidien, nous les acteurs dans le présent, nous avons l'impression de changer d'époque ou de changer de siècle, et comment les historiens, avec le recul qui est ou qui sera pour le XXIe siècle le leur, objectivent les choses.
Je vais tout de même forcer, Florian Louis, un tout petit peu votre nature, parce qu'on en a parlé avant cette émission. Si vous deviez quand même pointer une date aujourd'hui, et au vu des connaissances actuelles, quand commencerait, selon vous, pour vous, aujourd'hui, en 2025, le 21e siècle?
Alors moi, effectivement, je placerais le début du 21e siècle en 2001, avec les attentats du 11 septembre et l'invasion de l'Afghanistan qui s'en est suivie, essentiellement parce que le 20e siècle a été, pour le dire vite, un siècle occidental et même américain, et que d'un point de vue symbolique, certes pas réel, mais on a eu là à la fois une offense, une attaque, un travail de sape symbolique à la domination américaine, et la réponse américaine a elle-même contribué à l'enfoncer, et qu'on voit que tout ce qui suit depuis, globalement, c'est une Amérique sur le repli, de plus en plus isolationniste, on pourra en parler très longuement et nuancé, mais donc il me semble qu'il y a là, du point de vue des relations internationales, une charnière intéressante qui fait d'ailleurs écho à ce qui s'est passé au XXe siècle, puisque le XXe siècle, ça a été globalement plutôt le déclin de l'Europe, mais qui a survécu via l'Occident, c'est-à-dire en fait via les États-Unis, et on a l'impression que le XXIe siècle sera celui du déclin des États-Unis et donc de l'Occident, d'un monde qui sera sans doute plus multipolaire, même si, bien sûr, on peut se tromper, on n'en est qu'au début.
Qu'est-ce que l'on cherche, Florian Louis, lorsqu'on tente de pointer la date qui ouvre un siècle? Est-ce qu'on cherche la date qui embrasse toutes les autres, qui contient déjà en germe les 10 décennies prochaines, ou peut-être simplement la formation, l'embryon d'un monde nouveau?
En fait, dans mon cas, ce qui m'intéressait, c'était de trouver une année, effectivement, qui permette de penser le siècle. Des événements qui se sont produits cette année-là permettent d'éclairer, de comprendre mieux le siècle à venir. Après, il est évident que on peut toujours discuter, on peut toujours déplacer le curseur. Et en fait, c'est plus un moment, 1904 dans mon cas, que l'année 1904 précisément, qui m'intéresse. Parce que, une fois de plus, les années comme les siècles, c'est un découpage artificiel. Et il faut pas, il faut prendre ce que ce découpage artificiel a d'utile pour l'intelligence du passé, et il faut laisser de côté ce qui peut avoir d'inutile, c'est-à-dire ce qui peut devenir un exercice académique et ridicule de vouloir absolument se placer dans 365 jours ou dans 100 années.
Alors plongeons-y dans cette année 1904 que vous avez choisie justement pour ouvrir selon vous le XXe siècle. Si je me souviens bien de mes lectures d'étudiant de René Raymond, il ne datait pas l'ouverture du XXe à 1904. Pour lui, c'était la Première Guerre mondiale.
Effectivement, généralement, les historiens placent le début du XXe siècle en 1914 avec la Première Guerre mondiale ou en 1917 avec la Révolution bolchevique. Alors déjà, 1914, c'est problématique parce qu'aujourd'hui, les historiens de la Première Guerre mondiale la font généralement commencer avant, plutôt vers 1911 avec l'invasion de la Libye, les guerres balkaniques, parce que justement on a élargi le prisme et qu'on considère que la Première Guerre mondiale commence avant 14 et se termine après 18, puisque je renvoie notamment à l'excellent livre de Marc Mazover sur les vaincus, hein, qui montre bien comment la guerre à l'Est continue au moins jusqu'aux années 20-23 sans doute. Donc le problème, je suis en train de répondre à la question, hein, c'est que ces chronologies-là qui faisaient commencer le XXe siècle en 14 ou en 17 sont des chronologies eurocentrées. Et elles ont une pertinence, c'est-à-dire à l'échelle de l'Europe, il me semble effectivement que 1914 ou 1917 est sans doute une date plus pertinente que 1904 pour penser le début du XXe siècle. Mais précisément, nous sommes à l'orée d'un siècle que je pense multipolaire, et donc je ne suis pas le seul, évidemment, de nombreux historiens œuvrent à essayer de décloisonner, de globaliser, de mondialiser le regard, et en faisant cela, il me semble qu'il est très problématique de prendre le découpage classique qui, en gros, allait de 14 ou 17 à 89 ou 90, c'est-à-dire des événements de l'histoire européenne qui ont certes eu des répercussions globales, que ce soit la chute du mur de Berlin ou la Première Guerre mondiale, mais la Première Guerre mondiale, elle n'est pas si mondiale que ça, on le sait bien, c'est d'abord une guerre européenne. Donc voilà pourquoi il m'a semblé nécessaire de déplacer le regard et de chercher une date qui fasse sens à l'échelle du monde.
Alors, première tendance, première rupture même qui illustre cette année 1904, c'est peut-être la fin d'un monopole, la fin du monopole européen en matière de guerre. Et cela s'illustre, selon vous, dans la victoire du Japon sur la Russie dans cette guerre russo-japonaise.
Oui, donc cette guerre russo-japonaise qui commence en 1904 et qui se termine en 1905, elle est doublement marquante pour le XXe siècle. D'abord parce que c'est ce qu'aujourd'hui beaucoup d'historiens considèrent comme la première guerre mondiale. Là encore, pas parce qu'elle aurait réellement impliqué le monde entier d'un point de vue militaire, c'est pas le cas. C'est une guerre entre deux pays et uniquement eux, la Russie et le Japon. Mais c'est une guerre qui met en place des technologies, des techniques, des manières de combattre qui préfigurent par beaucoup d'aspects ce que sera la Première Guerre mondiale, à savoir des batailles très longues, des tranchées, l'armement industriel, etc., etc. Ça existait avant par certains aspects, mais pas avec une telle intensité. Donc ça, c'est une première raison pour laquelle la guerre russo-japonaise marque effectivement une forme de genèse du siècle des guerres totales, des guerres mondiales, des guerres industrielles, qui seront le XXe siècle. Et puis, par le résultat de cette guerre, à savoir la victoire du Japon sur la Russie, c'est aussi quelque chose de tout à fait marquant, parce que dans les mentalités de l'époque, dans les perceptions de l'époque, le Japon, c'est le monde coloré, voire le monde barbare, hein, et la Russie, c'est le monde blanc, le monde européen, le monde, entre guillemets, civilisé. Et le fait qu'une puissance européenne, blanche et civilisée, entre guillemets, soit battue à plate couture dans une guerre conventionnelle qui a duré des mois, parce qu'évidemment, il y a déjà eu des batailles, on pense à la bataille d'Adwa, par exemple, la défaite italienne en Éthiopie. Là, on parle d'une guerre qui dure plus d'un an et au terme de laquelle, avec les instruments pris aux Européens et aux Occidentaux, les instruments de la guerre moderne, les Japonais infligent une très lourde défaite aux Russes. Et à l'époque, c'est ça qui m'intéresse, comme je le montre dans le livre, c'est vraiment pensé comme ça, à la fois en Europe, où on s'inquiète de ce fameux péril jaune dont on s'inquiétait déjà avant, mais qui se trouve encore plus aggravé par cette victoire japonaise, et aussi du côté à la fois de l'Asie, mais également de l'ensemble du monde dominé par les impérialistes occidentaux, où on se réjouit de la victoire japonaise en y voyant la preuve que la domination de l'Europe et de l'Occident peut être battue en brèche, ce en quoi on peut presque voir là la naissance, la genèse de ce qui sera plus tard le tiers-monde.
Est-ce que c'est aussi, mais vous avez commencé à le dire, pour les Européens même, une bascule dans la perception du monde, et notamment dans la vision qu'ils avaient d'eux-mêmes et de leur soi-disant supériorité naturelle, même en matière de guerre et d'armement?
Oui, bien sûr, et dans les sources de l'époque que je cite, en fait, il y a deux, et tout le monde en Europe reconnaît que c'est un tournant majeur, que c'est important ce qui vient de se passer là, et après, en fonction de la couleur politique, c'est pour s'en réjouir ou pour s'en inquiéter, pour le dire vite, à gauche et à l'extrême gauche, on dit c'est bien fait pour les Russes, c'est bien fait pour nous, c'est nous qui sommes allés provoquer ces peuples en allant les coloniser, etc. Nous n'avons qu'un juste retour de bâton, nous sommes remis à notre place, ça fait mal, mais c'est comme ça. Et puis, si on va, plus on va vers la droite de l'échiquier politique européen, plus au contraire, c'est de la barbarie qui est en train de triompher de la civilisation, et c'est la fin du monde.
Quel signal, Florian Louis, pour les peuples colonisé, cette défaite des Blancs, cette défaite de la Russie face à un pays asiatique, face au Japon?
Un signal ambigu, c'est-à-dire que, comme je le disais, bon, partout dans le monde à la fois asiatique, on dit il faut imiter les Japonais, il faut faire comme eux, se moderniser, reprendre aux Européens, c'est la fameuse Meiji, reprendre aux Européens leur technologie pour les retourner contre eux, pour le dire très simplement. Ça, on trouve ça dans toute l'Asie. Mais ce qui est intéressant, on trouve aussi des échos de salut de cette victoire japonaise dans les Amériques, en Amérique latine, dans les Amériques noires, aux Caraïbes, Marcus Garvey, en Amérique du Nord, tous les militants de la cause noire prônent une forme de solidarité avec les Asiatiques, même chose en Afrique. Donc, pour ça que je parlais d'un espèce de tiers-monde. C'est ambigu tout de même parce qu'il ne faut pas oublier que très vite, beaucoup de ces gens vont déchanter, notamment en Asie, parce que le Japon, c'est une puissance impérialiste, et que très vite, tous ceux qui, notamment en Asie, se sont dit « Ah, on va se mettre derrière le Japon pour lutter contre l'impérialisme occidental », se sont rendus compte que le Japon, certes, luttait contre l'impérialisme occidental, mais pas pour la liberté asiatique, mais pour un autre impérialisme, l'impérialisme japonais.
On continue, grâce à vous, de sillonner dans l'année 1904. On change cette fois de géographie, de continent, pour arriver dans le sud-ouest africain allemand, l'actuelle Namibie.
Personne n'a pu retrouver les corps dans le désert. Ça a pris des années pour seulement savoir qui avait survécu. Les Allemands ont fait tout ce qui était possible pour nous exterminer. Ils pensaient que si nous parvenions à nous reconstruire, ils n'arriveraient jamais à coloniser le pays.
1904, toujours, deux drames, deux génocides, même l'armée impériale réprime le soulèvement des Herero et des Nama. Qui étaient ces deux groupes pour commencer?
C'était deux des principaux groupes qui vivaient dans cette colonie allemande, donc qu'on appelait le sud-ouest africain, qui est aujourd'hui la Namibie, et qui, comme énormément de peuples colonisés par des Européens, se sont soulevés. Et qui, comme énormément de peuples colonisés par les Européens qui se sont soulevés, ont été très brutalement réprimés. Ce en quoi leur sort n'est pas en soi exceptionnel, si ce n'est que l'ampleur des pertes fait qu'on arrive à un bilan d'un génocide qui aboutit à une quasi-extermination de ces deux peuples.
Je redonne juste les chiffres. Sur les 60 à 80 000 Herero et sur les 20 000 Nama que comptait le sud-ouest africain allemand 1904, respectivement 16 000, soit 15 à 20%, et 10 000, soit 50%, ont survécu à la répression. Les chiffres sont abyssaux.
Sont abyssaux, effectivement. Donc c'est en cela, évidemment, qu'il y a une dimension exceptionnelle, mais dans le fait qu'il y ait une répression ultra-violente d'un soulèvement indigène, ça, ce n'est pas exceptionnel. Et dans ce chapitre sur la guerre, sur l'extermination des Herero et des Nama, justement, j'essaie de réfléchir sur à la fois ce qu'il y a de banal, entre guillemets, ce que ce phénomène, cet épisode illustre de l'ordinaire colonial et impérial européen en ce début de XXe siècle, mais aussi ce qu'il y a d'exceptionnel, parce qu'évidemment, le fait que l'armée allemande provoque, mène à un génocide dans une de ses colonies, ne peut pas ne pas être mise en relation avec le fait que la même armée allemande une quarantaine d'années après, va mener à un génocide en Europe. Et ça a beaucoup, ça agite encore aujourd'hui beaucoup la société et l'historiographie, notamment en Allemagne. Et donc, c'était cette dialectique qui m'intéressait. Une répression à la fois banale, mais peut-être aussi le début de quelque chose qui est absolument exceptionnel.
Pour poser tout de même la question pendante, est-ce que vous lisez dans ce génocide, dans ces deux génocides, la préfiguration de la Shoah, ou là aussi, c'est un grand écart qu'il faut se garder d'opérer?
Il faut en tout cas être plus nuancé. Ce qui est intéressant, ce qu'ont bien montré un certain nombre d'historiens, c'est que pour comprendre la Shoah, il faut aussi regarder du côté des colonies, que les colonies ont été l'un des incubateurs de cette brutalisation dont parle Moss, qui, historien américain d'origine allemande, hein, qui avait théorisé, justement, on en revient à cette question du début du XXe siècle, que la Première Guerre mondiale avait constitué un phénomène de décivilisation des Européens, de brutalisation, qui expliquerait qu'ensuite, on ait cette violence qui s'empare de l'Europe, qui aboutit au génocide, pour le dire vite. Or, certains historiens considèrent, et c'est une piste intéressante à explorer, hein, que en fait, la brutalisation, les Européens n'ont pas attendu les tranchées de la Première Guerre mondiale pour l'expérimenter. Ils ont utilisé le monde dominé, le monde colonisé, justement, en s'en donnant à cœur joie, si j'ose dire, dans les violences, dans les assassinats, dans les meurtres de masse. Et que c'est donc peut-être en partie là que s'originerait la Shoah, d'autant plus que, précisément, les génocides coloniaux principaux sont ceux du sud-ouest africain. Alors, on peut cependant nuancer cette continuité pour plusieurs raisons, pour le dire vite. D'abord, il s'écoule beaucoup de temps, quand même 40 ans, donc les individus qui ont participé directement à l'extermination des Herero et des Nama, ils ne sont plus actifs, pour la plupart d'entre eux, au moment de la Shoah, dans les années, au début des années 40. Et puis, ce n'est jamais qu'une quinzaine de milliers de soldats qui étaient présents au sud-ouest africain. La Shoah, c'est des millions de personnes qui sont impliquées. Donc, faire un trait égal et en voir la conséquence directe, c'est problématique. Cependant, voir qu'il peut y avoir des racines coloniales à la Shoah, c'est intéressant. Et ça avait été pointé dès les années 40 par quelqu'un comme Aimé Césaire, par quelqu'un comme Simone Veil, par tout un tas de penseurs, justement, qui invitaient à décentrer déjà notre regard et à ne pas s'indigner seulement des crimes de masse lorsqu'ils touchaient des Européens, mais de voir que finalement, la violence européenne avait d'abord touché le reste du monde et était revenue comme un boomerang au cœur de l'Europe.
Néanmoins, Florian Louis, pour considérer ces massacres pour eux-mêmes et en tant que tels, est-ce que on peut considérer le génocide Herero et Nama comme le premier du XXe siècle?
En général, les spécialistes des génocides le considèrent comme tel. De fait, chronologiquement, ça dépend quand est-ce qu'on fait commencer le XXe siècle, si on revient à notre début, à notre débat initial.
1904, selon vous.
Voilà, donc si on fait commencer en 1904, il n'est clair qu'il n'y en a pas avant. Mais on pourrait remonter un tout petit peu avant, et la conquête des Philippines par les États-Unis, enfin la répression de la révolte des Philippins par les États-Unis, est aujourd'hui considérée par certains historiens comme relevant également d'une logique génocidaire. Et là, on est dans les années 1898. Donc si on remonte un petit peu plus tôt, le XXe siècle, on pourrait trouver quelque chose qui ressemble à un génocide encore avant celui des Herero et des Nama.
1904 toujours, et retour cette fois-ci en Europe occidentale pour tenter de comprendre ce qui se forme du point de vue géopolitique et géostratégique, et notamment l'alliance entre les blocs.
Je ne saurais vous dire, monsieur le président, ma joie. L'Angleterre et la France marchent, comme nous disons en anglais, le bras dans le bras.
Je suis heureux de constater, sire, qu'entre nos deux pays, il ne reste plus aucun point de friction.
Cela est dû pour une grande part à monsieur Delcassé.
Je vous remercie, sire, mais nous le devons surtout au plus grand des diplomates. Je veux parler du roi d'Angleterre.
Ce n'est pas une alliance.
Ils disent entente cordiale.
Entente cordiale, mon cher ambassadeur. Ce n'est pas un mot du vocabulaire diplomatique.
Je crains, pour nous, que ce ne soit beaucoup plus.
L'entente cordiale, je le dis avec mon propre accent de Marcel L'Herbier qui est sorti en 1939. Cette alliance, Florian Louis, entre la France et le Royaume-Uni, que signifie-t-elle du point de vue diplomatique, évidemment, mais bien au-delà, dans justement cette bascule que représente, selon vous, l'année 1904?
Alors, ce qui est important, surtout à propos de cet épisode-là, de l'année 1904, c'est de faire attention à ce qu'on appelle la téléologie, c'est-à-dire à pas voir dès le début tout ce qu'on sait qui va se produire ensuite. Ce qui est le cas dans l'extrait qu'on vient d'écouter, lorsqu'il dit « Ah, je pense que c'est bien plus qu'une entente », parce qu'effectivement, nous, aujourd'hui, on sait que Alors qu'en 1898, la France et le Royaume-Uni étaient au bord de la guerre après la crise de Fashoda, donc pour des questions coloniales, en 1904, elles se réconcilient, c'est l'entente cordiale, et qu'ensuite elles vont rester alliées durant les deux guerres mondiales et devenir, pour le dire vite, les piliers de la défense, de la démocratie et du libéralisme en Europe. Et donc, rétrospectivement, on a tendance à voir dans cette entente cordiale de 1904, eh bien, une alliance qui se nourrait pour un siècle entre deux vieux ennemis, la France et le Royaume-Uni.
Le début de la formation des alliés, au fond.
Exactement. Or, dans les faits, c'est pas du tout ça qui se passe à ce moment-là. C'est simplement un règlement des différends impérialistes entre la France et le Royaume-Uni, ce qui veut dire que, loin d'être l'incarnation d'un... Si on devait chercher une valeur qui rapproche la France et le Royaume-Uni à ce moment-là, c'est certainement pas la démocratie et le libéralisme, mais c'est l'impérialisme, puisqu'il s'agit en gros de se mettre d'accord sur les frontières entre les différents domaines impériaux pour ne pas risquer, comme en 1898 à Fashoda, de déboucher sur une guerre franco-britannique. Alors, l'arrière-plan de tout ça, pourquoi est-ce qu'on veut éviter une guerre franco-britannique ? C'est parce que, à peu près entre les deux géographiquement, il y a l'Allemagne qui est en train de s'affirmer comme une grande puissance, qui s'est dotée d'un empire colonial, qui se dote, ce qui inquiète beaucoup les Britanniques, d'une flotte de haute mer. Et donc, les Britanniques, pour le dire vite, se disent « il faut maintenant qu'on calme le jeu avec les Français, qui ne sont pas une menace pour nous et avec lesquels, finalement, les différends sont désormais assez mineurs ». Pour ne pas avoir à courir différents ennemis à la fois. Le problème, c'est que ce qui était simplement un apaisement franco-britannique va devenir, si j'ose dire, un embrasement entre la France et le Royaume-Uni d'un côté et l'Allemagne de l'autre, parce que les Allemands, justement, voient cela comme une, comme ce que ça n'est pas, une alliance franco-britannique et comme une alliance franco-britannique tournée contre eux. Ce que ça n'est pas. Donc, c'est pas une alliance. De fait, c'est effectivement tourné contre l'Allemagne, en ce sens que on comprend bien l'arrière-plan de cette réconciliation, mais il n'y avait pas la volonté, à ce moment-là, d'aller vers une guerre contre l'Allemagne.
Il y a deux choses, effectivement, Florian Louis, qui sont intéressantes dans cette alliance datant, on le répète, de 1904. C'est ce que vous venez de décrire. L'origine de cette alliance, c'est d'abord la tentative de résoudre des litiges coloniaux. C'est le premier point. Le second, c'est la lecture allemande de ce rapprochement, la lecture que fait l'Allemagne de cette nouvelle alliance. Et dans le fond, la leçon historique que l'on peut tirer de votre livre et de ce récit, c'est qu'un événement doit toujours être lu, compris, appréhendé à l'aune de celui qui le lit. C'est-à-dire que dans le fond, l'Allemagne n'a pas du tout la même façon de saisir cet événement objectif.
Exactement. C'est-à-dire qu'on a l'événement objectif et on a les perceptions subjectives de celui-ci. Et pour quelqu'un comme moi qui m'intéresse, vous le savez beaucoup aussi, à la géopolitique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que souvent dans un conflit, on ne peut pas comprendre un conflit si on regarde simplement objectivement quel est le territoire disputé. Il faut aussi regarder, la Palestine en est un bon exemple, qu'est-ce que subjectivement, symboliquement, il inspire aux acteurs. Bon, mais là, c'est effectivement la même chose. Les Allemands ont subjectivement perçu ce rapprochement franco-britannique, cette réconciliation franco-britannique, ce qui était donc un acte d'amitié, eux l'ont perçu avant tout comme un acte d'hostilité, ce que ça n'était pas volontairement ni ouvertement. C'était simplement peut-être un acte, on va dire, de défiance, d'inquiétude à l'égard de l'Allemagne. Mais c'est l'Allemagne qui s'est elle-même inquiétée de ce rapprochement.
À quel point l'année 1904 préfigure-t-elle l'année 1914 ? Vous avez parlé des armes, vous avez parlé de la façon dont les armées s'organisaient, vous avez parlé des tranchées qui sont évidemment le symbole par construction de cette Première Guerre mondiale. Mais au-delà, qu'est-ce que l'on voit déjà en germe, notamment dans le rapport des peuples à la guerre, sur justement ce lien entre 1904 et 1914 ?
Beaucoup de choses, effectivement. Bon, dans le rapport des peuples à la guerre, en Europe notamment, mais au Japon aussi par exemple, on voit des peuples qui sont très imprégnés de patriotisme et même de chauvinisme, de nationalisme. On voit des armées qui justement sont surarmées, les Allemands et pas que, les Japonais multiplient les investissements pour se doter de flottes de guerre. Donc on est dans une forme de course aux armements. Et on est aussi dans un moment, on a commencé à le dire, de recomposition des équilibres internationaux, puisque à l'échelle de l'Europe, ce rapprochement franco-britannique, il sera suivi en 1907 d'un rapprochement entre les Britanniques et les Russes, qui donnera naissance à la Triple Entente, qui sera bien sûr, donc en fait, à l'origine en partie, enfin qui sera impliquée dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Donc ce qu'on voit, c'est que se met là en place le début de l'engrenage qui conduira à la Première Guerre mondiale, mais il est très important, quand on est historien, justement, de ne pas tomber dans la téléologie, et donc d'être conscient, c'est ce que j'essaie de montrer dans ce chapitre, à la fois comment cet engrenage s'est mis en place, mais comment ça aurait tout à fait pu se passer autrement, notamment si justement, les Allemands n'avaient pas surréagi à ce rapprochement.
Est-ce que c'est intéressant, Florian Louis, du point de vue historique, de se demander ce que 1904 préfigure cette fois-ci du XXIe siècle, ou bien, dans le fond, c'est une question de journaliste ?
Non, c'est toujours intéressant également, parce que effectivement, je vous le disais, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure, finalement, 1904, c'est la première étape de, c'était l'étape déseuropéanisation d'un processus plus large qui sera peut-être celui de la, si ce n'est désoccidentalisation, parce que les traces de l'Occident ne vont pas disparaître du jour au lendemain, mais peut-être d'un monde qui serait post-occidental, ce qui n'empêcherait pas qu'il aurait des éléments occidentaux, mais qui ne serait peut-être plus occidentalocentrique.
Merci beaucoup Florian Louis, et pour cet échange, et pour la parution de cet ouvrage passionnant. Je le redis, je rappelle que vous êtes historien des relations internationales, membre de la rédaction du Grand Continent, et vous avez fait paraître en septembre 1904, Genèse du XXe siècle, c'est aux presses universitaires de France. Et un grand merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission, Rodi Eken, Bertie Bourdon, Roxane Poulain, à la réalisation Margot Page, et à la technique ce soir, Jean-Guy Lermège.